Faisons maintenant la visite virtuelle du site archéologique pour examiner en détail les monuments. L'entrée des visiteurs donne accès à la partie nord du site archéologique. En passant par le bureau du gardien, on trouve à gauche les vestiges du sanctuaire d'Aphrodite. À droite, le long de la route pavée, on peut admirer des vestiges architecturaux datant de diverses époques. En face, au fond, on peut distinguer le manoir médiéval des Lusignans et le musée. Le sanctuaire, avec son enclos, couvre l'espace qui s'étend du côté sud des maisons du village jusqu'au manoir médiéval. Plusieurs auteurs classiques se réfèrent à la grandeur du sanctuaire ainsi qu'aux cérémonies de culte qui tiraient leurs origines de rites ancestraux provenant de la mer Égée et du Levant. Le culte aniconique, absence de toute représentation matérielle, comme dans d'autres religions méditerranéennes orientales, s'exprime par le bétil, une pierre conique d'andésite qui représente l'idole de la déesse. Le bétil découvert sur le site est exposé aujourd'hui au musée de Kouklia. Son importance est confirmée par les pièces de monnaie romaines et les sceaux hellénistiques en terre cuite découverts dans la région, sur lesquels figure l'idole conique entre deux piliers et au-dessous d'une cella tripartite. En ce qui concerne l'autel principal, c'est par des prières et par un feu pur qu'on honore l'autel, et celui-ci, bien qu'en plein air, n'est jamais mouillé par la pluie. Les édifices du sanctuaire ont subi des changements et des dommages au cours des siècles. Durant l'époque médiévale, ces vestiges ont été utilisés comme matériaux de construction, surtout pour les raffineries du sucre et peut-être pour le manoir médiéval. Malgré les difficultés et les destructions, le culte a survécu pendant plus de 1600 ans. Les vestiges en l'emplacement du sanctuaire appartiennent à deux ensembles de constructions différentes. Au sud, le sanctuaire 1 de l'époque du bronze récent et au nord, le sanctuaire romain 2 bâti vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle après Jésus-Christ. En empruntant la route pavée située près du manoir médiéval, on peut voir les vestiges du sanctuaire 1. Les immenses blocs de calcaire ainsi que le mur d'enceinte au sud-ouest et au nord permettent de constater l'existence de deux parties, un téménos, enclos sacré à ciel ouvert, et une salle couverte. La fonction des trous irréguliers sur le mur du téménos reste mystérieuse. Les fouilles ont révélé un bassin plat sur le sol du téménos à ciel ouvert, qui a pu servir soit pour les ablutions rituelles, soit de table d'offrande. Entre le bassin et la salle, on peut voir un bloc calcaire taillé qui peut être associé à des cornes de consécration ou à une base d'un des chapiteaux, angulaire à profil en escalier, identique à ceux qui sont exposés à côté le long du sentier. On suppose l'existence des autels, pourtant, aucune trace d'autel n'a été trouvée. La salle couverte a pu représenter l'adyton, la partie secrète du sanctuaire. Il s'agit sans doute d'un bâtiment oblong, surélevé, au mur compact. Le reste des murs est composé de pierres rectangulaires soigneusement taillées. La partie est et le centre du bâtiment sont parcourus de deux séries de bases rectangulaires qui soutenaient des piliers quadrilatéraux. Ce sanctuaire se distingue des autres sanctuaires découverts sur l'île par le mur mégalithique de son téménos et la salle adjacente hypostyle, également monumentale. Il paraît pourtant que le sanctuaire fut utilisé sans interruption jusqu'au séisme de 76-77 après Jésus-Christ. Une amphore rituelle de stockage du XIIIe ou du XIIe siècle a été découverte sur le même site et est aujourd'hui exposée au musée de Kouklia. En outre, les peu nombreuses figurines votives du type Astarté, d'influence phénicienne, c'est-à-dire des figures féminines, les bras repliés sur la poitrine, renvoient au culte le plus ancestral de la fertilité, qui plonge ses racines dans le culte de la déesse chalcolithique de la fertilité. Son culte resta vivant parmi les peuples du Chypriote récent, jusqu'à ce que les colons provenant de la mer Égée changent son caractère. Ce fait est renforcé par la présence des idoles de la déesse aux bras levés, qui ont probablement été importées de Crète aux environs du XIe siècle avant Jésus-Christ. La présence des Achéens peut aussi être constatée grâce au nom d'Anassa, de la déesse Paphia, qui est conservée jusqu'à la fin de la période classique. Dès lors, la déesse Paphia est représentée conformément au schéma commun figuratif d'Aphrodite de l'espace helladique. On estime que les ex-voto sculptés en bronze et en pierre étaient bien nombreux, tandis qu'une cinquantaine de statues en bronze, dont seul un doigt est sauvé, devaient orner les bases sans inscription. La plupart des sculptures de marbre auraient sans doute abouti dans un four à chaud, comme celui découvert au coin sud-ouest de la salle nord. Le sanctuaire romain II est construit à côté du sanctuaire I, positionné sur son axe nord-est et couvre une surface mesurant 79 mètres sur 67. Son plan suit les mêmes normes en encadrant une cour à ciel ouvert, tout en conservant la tradition architecturale du culte paphien. Les pauvres vestiges indiquent que le sanctuaire formait une sorte de grand U, ouvert à l'ouest, qui mariait la tradition architecturale de l'Occident et celle de l'Orient. Il n'est pas facile d'imaginer la forme de l'aile orientale, car des bâtiments médiévaux et contemporains ont remplacé les constructions antérieures. La Stoa, galerie sud, était une salle oblongue, pavée, en mosaïque, mesurant 56 mètres sur 10,50 mètres, entourée d'une estrade surélevée. Aujourd'hui, on ne voit qu'une partie de la mosaïque aux motifs géométriques élaborés. Le long de l'axe central, une série de piliers doriques sur des bases rectangulaires soutenaient le plafond. Dans la partie sud, on peut distinguer les fondations rectangulaires d'un escalier qui donnait accès au sanctuaire 1. La stoa nord était un peu moins grande que la stoa sud, alors qu'une grande partie de son côté est se trouve en dessous du bâtiment contemporain. Une partie du sol décorée sobrement en mosaïque est aussi préservée. Les deux ailes semblent avoir été utilisées comme salle de banquet, tandis que la partie surélevée devait être utilisée comme lieu de repos par les fidèles au cours des repas. Ces bâtiments présentent de nombreuses affinités avec ceux de Pergame et du sanctuaire d'Apollon Ilates à Courion. L'énorme pilier rectangulaire vient du sanctuaire du bronze récent. Et c'est ici, il y a quelques années, que les jeunes mères du village laissaient des cierges en l'honneur de la Vierge de Galatoriotissa. Donc, il s'agit d'un culte associé au culte d'Aphrodite. La déesse apparaît dans l'épopée homérique au 8e siècle avant Jésus-Christ, comme Kypris, la chypriote, mais Hésiode désigne Aphrodite comme Kyproyénia, née à Chypre. On rencontre aussi les surnoms Kyproyénia, née à Chypre, Potnia Kyprou, la maîtresse, la souveraine de Chypre, Acrea, déesse des sommets, des caps, Pontia Enalia, déesse marine, Urania, la céleste, Pandemos, déesse de tous les peuples, Echios, armée, Aphroditos, Aphrodite masculine, Adonéa, qui pleure la mort, liée au monde des morts, Eleimon, miséricordieuse, Christostéphanos, à la couronne d'or. L'Office de tourisme de Chypre, en collaboration avec le département des Antiquités, ont mis en place la route culturelle d'Aphrodite. C'est ainsi qu'au sein du site archéologique, vous allez remarquer deux grands panneaux portant des informations sur cette importante déesse. D'autres panneaux similaires sont également installés à Amathus, aujourd'hui Lemessos, et à Kition, aujourd'hui Larnaca, où les fouilles ont mis au jour des vestiges de temples consacrés à la déesse. L'itinéraire comprend aussi d'autres sites, par exemple Néa Paphos, l'établissement chalcolithique de Lemba, le village de Hieroskipou, le jardin sacré de la déesse Aphrodite, ainsi que Tamassos, au village de Politico. Le même itinéraire intègre une partie du sentier au sud du lac salé de Larnaca, parce que bon nombre de coquillages et de plantes sont liés à cette déesse unique. Par exemple, les plantes associées à la déesse incluent le rosier sauvage, Rosa, le grenadier, Punica granatum, le dictame de Crète, Origanum dictamnus, le narcisse, Narcissus poeticus, le myrte, Myrtus communis, l'anémone, Anemone coronaria. Les coquillages associés à la déesse appartiennent aux familles Astarditae, Cartidae, Cypraeidae et Veneridae. Après le sanctuaire 2, on passe à l'autre côté de l'allée pavée pour découvrir les vestiges des édifices romains qui devaient impressionner les visiteurs qui arrivaient par la mer. Ici, il faut noter la grande mosaïque décorant le sol de l'atrium d'une grande villa à péristyle. Il s'agit de la représentation de Léda avec le cygne. Ici, on peut voir la copie. On peut aussi distinguer les vestiges de la petite chapelle byzantine du XVIe siècle consacrée à Saint-Nicolas, qui a été détruite 200 ans plus tard. On se dirige maintenant vers le manoir médiéval. C'est ce site stratégique que les Lusignans ont choisi pour construire au XIIIe siècle le centre d'administration régionale afin de surveiller la production du sucre et les plantations impériales de canne à sucre. En 1571, le manoir est transformé en konak, résidence du domaine turc de Kouklia. Au début du XXe siècle, le lieu est peu à peu abandonné. La propriété passe aux mains du département des Antiquités et entreprend des travaux de restauration dans les ailes ouest, est et nord. Celles-ci sont aménagées de manière à abriter le musée archéologique et ses dépôts. Construit en pierre de sable taillée locale, il s'agit d'un énorme bâtiment doté de contreforts extérieurs servant d'appui et d'un grand atrium à l'intérieur. Les ailes ouest et sud sont utilisées comme dépôts et dépendances, tandis que l'aile est est ouverte aux visiteurs. Le sous-sol abrite la salle gothique, un des monuments les plus impressionnants de l'architecture gothique laïque sur l'île. La salle, mesurant 27,30 m sur 6,80 m et 5,70 m de haut, possède quatre voûtes d'arêtes qui renvoient au style gothique de Bourgogne et du sud de la France du XIIIe siècle. Elle est éclairée de fenêtres rectangulaires étroites. Également impressionnant est le mur médiéval de l'aile est, composé de carreaux de pierre soigneusement taillés. Le reste des murs est fait de pierres de sable locales. Le rez-de-chaussée abrite deux larges salles spacieuses au plafond plat, soutenues de grandes poutres. Les salles communiquent par une rampe pavée montante extérieure. Dans la salle au niveau le plus bas, le sol est décoré de la mosaïque d'une villa romaine découverte au lieu-dit Alonia. La salle renferme aussi des découvertes du sanctuaire d'Aphrodite, par exemple l'idole conique, le bétyle, une petite collection de statuettes, une baignoire en terre cuite pour le transport de l'eau et l'énorme amphore de stockage dont une poignée est décorée en relief. Dans la salle supérieure, on peut voir, de gauche à droite, divers objets provenant du site de Palais Paphos. Les objets sont classés par ordre chronologique, du chalcolithique jusqu'à la période de la domination ottomane. Il faut noter la baignoire en terre cuite qui est située au centre de la salle, les vases coniques en terre cuite au fond à droite qui étaient utilisés dans la raffinerie sucrière et enfin la mosaïque romaine originale représentant Léda avec le cygne à droite près de l'entrée. Le côté gauche de la même salle abrite une nouvelle et impressionnante découverte. Le grand sarcophage du VIe siècle qui a été découvert en 2006 au lieu dit Cato Alonia. Il s'agit d'un sarcophage en calcaire qui porte en bas-relief une décoration aux couleurs naturelles et dont les quatre pieds imitent des pattes de lion. Sur la face principale, on peut voir une scène de combat avec Hercule au centre. Il pourrait s'agir d'une figuration du premier siège de Troie par les Grecs, auquel prennent part Hercule avec Télamon, roi de Salamine, et les arcades. Sur l'autre face du sarcophage, les représentations sont inspirées du chant neuf de l'Odyssée, l'épopée homérique. Il s'agit de la scène où Ulysse et ses compagnons quittent la caverne du Cyclope en se dissimulant dans la laine de ses moutons. Le décor sur l'un des côtés étroits présente un guerrier portant sur ses épaules un autre guerrier mort ou blessé, les deux s'approchant d'un cyprès. Il pourrait s'agir d'une figuration d'Ajax portant le corps d'Achille. L'autre côté étroit représente un combat entre une lionne et un sanglier. La même salle abrite aussi la représentation en bas-relief de l'Évangile, exemple typique de l'art chypriote laïque provenant de l'église de Panaia Tiskasolikis à l'est du sanctuaire. L'atrium du manoir médiéval accueille des manifestations culturelles. L'événement le plus important est la soirée dédiée à la déesse Aphrodite dans le cadre du festival annuel à Aphrodite, organisé par la municipalité de Yeruskipou et le conseil communautaire de Kouklia. Le spectacle combine opéra, poésie, chant choral et ballet. Dans la région, on peut aussi visiter l'église de Panagia Tis Katholikis, les fortifications sur la colline de Markelos, avec le portique nord-ouest de Palais Paphos, le tombeau royal du classique récent, la villa à péristyle à Evreti Arkalos, le pressoir à huile de Kouklia, au lieu dit Stylarka, et la raffinerie sucrière des Lusignans dans la plaine littorale. En dehors de l'espace clos, à l'est du sanctuaire, on trouve l'église de Panagia Tis Katholikis, un monument médiéval important aux ouvertures en ogive. L'église initiale du XIIe ou XIIIe siècle était en croix libre avec coupole cylindrique surélevée. L'extension de la nef ouest date du XVIe siècle. À l'intérieur, les fresques du XVe siècle sont sombres et en très mauvais état. On peut distinguer la fresque du mur ouest où les rivières Tigre et Euphrate sont représentées comme deux têtes vomissant des torrents d'eau en formant une partie du jardin d'Éden le jour du jugement. À l'origine, l'église portait le nom de Panagia Aphroditissa et plus tard, le nom de Panagia Rhizopolitissa selon Sir Harry Luke. À la fin, elle fut nommée Panagia Katholiki. Entre les rivières Xeros et Diarizos, au lieu dit Stylarka, à quelques kilomètres au sud-ouest du sanctuaire d'Aphrodite, les fouilles ont mis au jour une paire de monolithes perforés en calcaire. Le mystère de ces deux pierres, uniques parmi les 50 monolithes percés découverts à ce jour à Chypre, a longtemps occupé les archéologues. Premier, le diplomate italien Luigi Palma di Cesnola, qui a vécu sur l'île à la fin du 19e siècle, s'est interrogé sur l'utilité des monolithes. F. H. Guillemard fut le premier à exprimer une théorie selon laquelle les deux pierres appartiendraient à un ancien pressoir à huile. Ces monolithes étaient donc utilisés comme des axes, actionnant les meules rondes pour broyer les olives. L'huile d'olive extraite par la pression de la pulpe des fruits s'écoulait dans la conduite qui aboutissait dans les 5 réservoirs découverts un peu plus loin. Les objets de céramique attique à vernis noir, mis au jour sur le même site, datent de la fin du 4e ou du début du 3e siècle avant Jésus-Christ. La raffinerie de canne à sucre des Lusignans, située dans la plaine littorale, est un site remarquable. Il s'agit d'un secteur industriel fructueux, très répandu dans l'ensemble de la Méditerranée, du 13e au 16e siècle, grâce aux conquêtes des Arabes et aux croisades. Une recherche scientifique approfondie, menée par la mission suisse-allemande à Kouvouklia, nous a fourni un bon nombre d'informations qui permettent la compréhension de la façon dont les installations fonctionnaient. Il est certain que le site du sanctuaire abritait des installations de raffinerie qui sont maintenant détruites. On peut seulement y observer les vestiges du système d'approvisionnement en eau, dans la cour du sanctuaire et plusieurs réservoirs taillés dans le roc. Cependant, au lieu dit Kouklia Stavros, à 10 minutes de marche à l'est du monument, les fouilles ont mis au jour une raffinerie sucrière, comptant ainsi parmi les quelques sites similaires découverts en Méditerranée et au Proche-Orient, qui conservent ses principaux éléments fonctionnels. Elle fut utilisée de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les trouvailles indiquent que la force motrice du moulin était l'eau provenant des sources de la forêt aurite par le biais de l'aqueduc médiéval. Les meules étaient mues au moyen d'un axe vertical au monolithe pour broyer les cannes à sucre. Après son extraction, la pulpe de sucre était cuite et filtrée. Ensuite, le mélange était versé dans de petits pots, formes, pour créer des cônes de sucre, tandis que le liquide s'égouttait dans des jarres pour former la mélasse. Enfin, le sucre en forme de cône ou de poudre était exporté dans de petites caisses en bois. La même procédure est décrite dans les dessins de l'ingénieur italien Joannello Turiano en 1560. La forme architecturale de ces complexes a servi d'exemple aux hospitaliers qui ont fait construire une sucrerie à côté du château de Colossi ainsi qu'à la famille de Cornaros à Episcopi. Les milliers de formes et de jarres, piti, découvertes sur le site, témoignent de l'importante production de sucre ainsi que du revenu considérable que procurait son exportation vers l'Occident. Dans son manuel, La Pratica della Mercatura, F.B. Pegolotti accordait au sucre en poudre de Chypre la valeur marchande la plus élevée. Voilà donc le splendide monument de Kouklia qui nous en apprend tant sur le culte de la déesse Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, que sur la prospérité de la cité-royaume au fil du temps.